Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. De nouveau ensemble, dans nos lectures en liberté, pour la suite des aventures de Gargantua de François Rabelais. Comment ? Entre les foissiers de Lernée et les gens du pays de Gargantua, survint la grande querelle qui entraîna de grandes guerres. En ce temps-là, c'était la saison des vendanges, au commencement de l'automne. Les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et à empêcher les étourneaux de manger les raisins. Dans le même temps, les foissiers de Lernée passaient le grand carrefour portant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les bergers en question leur demandèrent poliment de leur en donner pour leur argent au cours du marché. Car c'est un régal céleste, notez-le, que de manger au déjeuner des raisins avec de la foisse fraîche, surtout des pinots, des sauvignons, des muscadets, de la bicane ou des foireux, pour ceux qui sont constipés, car ils les font aller longs comme une pique et souvent, pensant péter, ils se conchient. On les appelle pour cette raison les penseurs des vendanges. Les foissiers ne condescendirent même pas à satisfaire leurs demandes. Et ce qui est pire, les insultèrent gravement en les traitant de trop babillards, de brèches-dents, de jolis rouquins, de mauvais plaisants, de chions-lits, de croquants, de fauchetons, de fainéants, de goinfres, de gueulards, de vantards, de vauriens, de rustres, de casse-pieds, de pique-assiettes, de matamores, de fines braguettes, de mordants, de tire-flemmes, de malotrus, de lourdeaux, de nigauds, de marauds, de corneaux, de farceurs, de claquetons, de bouviers, d'étrons, de bergers de merdre, et autres épithètes diffamatoires de même farine. Ils ajoutèrent qu'ils n'étaient pas dignes de manger de ces belles foisses et qu'ils devraient se contenter de gros pains bis et de tourtes. À cet outrage, l'un d'eux, nommé Froguier, bien honnête homme de sa personne et réputé bon garçon, répondit calmement « Mais depuis quand ? « Êtes-vous devenu taureau pour être aussi arrogant ?»« Diable, d'habitude, vous nous en donniez volontiers, et maintenant vous refusez, ce n'est pas agir en bon voisin. Nous ne vous traitons pas ainsi quand vous venez ici acheter votre beau froment avec lequel vous faites vos gâteaux et vos foisses. » Et encore, nous vous aurions donné de nos raisins par-dessus le marché. » Mais par la mère Dieu, vous pourriez bien vous en repentir et avoir affaire à nous un de ces jours. À ce moment-là, nous vous rendrons l'appareil, souvenez-vous-en. » Alors Marquet, grand bâtonnier de la confrérie des foissiers, lui dit « Vraiment, tu es fier comme un coq ce matin, tu as trop mangé de mille hier soir. Viens là, je vais te donner de ma foisse. » Alors Frogier s'approcha en toute confiance, tirant une pièce de sa ceinture en pensant que Marquet allait lui déballer des foisses. Mais celui-ci lui donna de son fouet à travers les jambes, si sèchement qu'on y voyait la marque des nœuds. Puis il tenta de prendre la fuite, mais Frogier cria « À l'assassin !» et « À l'aide !» de toutes ses forces et en même temps lui lança un gros gourdin qu'il tenait sous l'aisselle. Il le toucha vers la suture coronale de la tête, sur l'artère temporale du côté droit, si bien que Marquet tomba de sa jument et semblait plus mort que vif. Cependant, les métayers qui écalaient les noix non loin de là accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur nos foissiers comme sur seigles verts. Les autres bergers et bergères, entendant le cri de Frogier, arrivèrent avec leurs frondes et leurs lance-pierres et les poursuivirent à grands coups de cailloux qui tombaient si serrés qu'on aurait dit de la grêle. Finalement, ils les rejoignirent et enlevèrent environ 4 ou 5 douzaines de leurs fouasses. Toutefois, ils les payèrent au prix habituel et leur donnèrent 100 de noix et 3 pannerets de francs blancs. Ensuite, les fouassiers aidèrent Marquet, qui avait une vilaine blessure, à se remettre en selle, et ils rentrèrent à Lernay, sans poursuivre leur chemin vers Paris, tout en menaçant fort et ferme les bouviers, les bergers et les métayers de Seuilly et le Ciney. Sur ce, bergers et bergères se régalèrent avec ses fouasses et ses beaux raisins, et se rigolèrent ensemble au son de la belle musette, en se moquant de ces beaux fouassiers qui faisaient les malins et avaient joué de malchance, faute de s'être signés de la bonne main le matin. Et avec de gros raisins chenins, ils baignèrent délicatement les jambes de Frogier, si bien qu'il fut tout de suite guéri. Comment les habitants de Lernay, sur ordre de Picrocole, leur roi, attaquèrent par surprise les bergers de Gargantois. Les fouassiers rentrés à Lernay, immédiatement, sans prendre le temps de boire ni de manger, se transportèrent au Capitole, et là, devant leur roi, nommé Picrocole, 3e du nom, exposèrent leurs doléances en montrant leurs paniers crevés, leurs bonnets enfoncés, leurs habits déchirés, leurs fouasses pillées et surtout Marquet énormément blessé. Ils dirent que tout cela avait été fait par les bergers et métayers de Grand Gousier, près du grand carrefour de l'autre côté de Seuilly. Picrocole, incontinent, entra dans une colère folle et, sans s'interroger davantage sur le pourquoi ni le comment, fit crier par son pays banc et arrière-banc et ordonner que chacun, sous peine de la corde, se trouvât en armes sur la grande place devant le château à midi. Pour donner plus de consistance à son projet, il fit battre tambour aux alentours de la ville. Lui-même, pendant qu'on préparait son dîner, alla faire mettre son artillerie sur affût, déployer son enseigne et son oriflamme, et charger force munitions tant pour l'armement que pour la gueule. Tout en dînant, il distribua les affectations et, sur sa décision, le seigneur Trepelu fut nommé à l'avant-garde, laquelle comptait 16 014 arquebusiers et 35 011 miliciens. Le grand écuyer Touquedillon fut préposé à l'artillerie, où l'on compta 914 grosses pièces de bronze, canons, double canons, basilic, serpentine, couleuvrine, bombarde, faucon, mortier, spirole et autres pièces. L'arrière-garde fut confiée au duc Raquedenard. Au plus fort de la troupe se tinrent le roi et les princes de son royaume. Sommairement équipés de la sorte, avant que de se mettre en chemin, ils acheminèrent sous la conduite du capitaine Engoulevent 300 chevaux légers pour repérer le terrain et voir s'il n'y avait pas d'embuscade dans le secteur. Après soigneuses explorations, ils trouvèrent tout le pays alentour paisible et silencieux, sans le moindre rassemblement. À cette information, Picrocole commanda que chacun se mit en marche en hâte sous son enseigne. Alors, sans ordre ni organisation, ils se mirent en campagne pêle-mêle, dévastant et détruisant tout sur leur passage, n'épargnant pauvres ni riches, lieux saints ni profanes. Ils emmenaient bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarres, oies, porcs, truies, gorets, abattaient les noix, vendangeaient les vignes, emportaient les cèpes, faisaient tomber tous les fruits des arbres. C'était un tohu-bohu innommable que leurs achissements, et ils ne trouvaient personne qui leur résistât. Tous se rendaient à leur merci, les suppliant de les traiter avec plus d'humanité, eu égard à ce qu'ils avaient de tout temps vécu en bon et cordial voisinage, et ne commirent jamais à leur endroit d'excès ni d'outrage pour être ainsi subitement malmenés par eux. Dieu les en punirait sous peu. Mais à ces objurgations, ils ne répondaient rien, sinon qu'ils allaient leur apprendre à manger de la foisse. Comment un moine de Seuilly sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis ? Ils firent tant, harcelant, pillant et maraudant, qu'ils arrivèrent à Seuilly, où ils détroussèrent hommes et femmes et prirent tout ce qu'ils purent. Rien ne leur parut trop chaud ou trop pesant. Bien qu'il y eût la peste dans la plupart des maisons, ils entraient partout, s'emparaient de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, sans que jamais nul d'entre eux n'attrapât le mal, ce qui est un cas plutôt surprenant, car les curés, les vicaires, les prédicateurs, les médecins, les chirurgiens et les apothicaires qui allaient visiter, penser, guérir, sermonner et exhorter les malades étaient tous morts d'infection, alors que ces diables de pillards et de meurtriers n'y contractèrent jamais le moindre mal. D'où vient cela, messieurs ? Réfléchissez-y un peu, je vous en prie. Le bourg ainsi pillé, ils se dirigèrent vers l'abbaye dans un horrible tumulte, mais la trouvèrent bien close et murée. Alors le gros de la troupe passa outre en direction du gué de Vède, à l'exception de 7 compagnies de gens de pied et 200 lances qui restèrent sur place et rompirent les murailles du clos pour dévaster toute la vendange.
En l'an 30e de mon âge, que toutes mes hontes j'eus bu, ni du tout folle, ni du tout sage, nonobstant maintes peines eues, lesquelles j'ai toutes reçues sous la main Thibaut d'Ossigny, s'il est évêque signant les rues, qu'il soit le mien, je le renie. Mon seigneur n'est ni mon évêque, sous lui ne tient sinon en friche. Foi ne lui doit nommage avec, je ne suis son cerf ni sa biche. Nourri d'une petite miche et de froid d'eau tout un été, large ou étroit, mou me fut chiche, tel lui soit Dieu qu'il m'a été. Pauvre, je suis de ma jeunesse. De pauvres et de petites extrasses. Mon père jamais n'eut grand richesse, ni son aïeul nommé Horace. Pauvreté nous suit à la trace sur les tombeaux de mes ancêtres. Les âmes desquels Dieu embrasse, on n'y voit ni couronne ni sceptre. Si aucun me voulait reprendre et dire que je le maudis, non fait, si bien le sait comprendre, en rien de lui je ne médis. Voici tout le mal que j'en dis, s'il m'a été miséricorde, Jésus le roi de paradis, tel lui soit à l'âme et au corps. S'il m'a été dur et cruel, trop plus qu'ici ne le raconte, je veux que le Dieu éternel lui soit donc semblable à ce conte. Et l'Église nous dit, nous compte, que prions pour nos ennemis. Je vous dirai, j'ai tort, j'ai honte, quoi qu'il m'ait fait, à Dieu remis. Pauvre, je suis de ma jeunesse. De pauvres et de petites extrasses. Mon père jamais n'eut grand richesse, ni son aïeul nommé Horace. Pauvreté nous suit à la trace sur les tombeaux de mes ancêtres. Les âmes desquelles Dieu embrasse, on n'y voit ni couronne ni sceptre.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour à Gargantua après le moment musical. Les pauvres diables de moines ne savaient auquel de leurs saints se vouer. À tout hasard, ils firent sonner au chapitre des capitulants. Là, ils décrétèrent qu'ils feraient une belle procession à grand renfort de beaux psaumes et de litanies contre les embûches de l'ennemi et avec de bons répons pour la paix. En l'abbaye, il y avait alors un moine cloîtré nommé Frère Jean des Entaumeurs, Jeune, fier, pimpant, joyeux, pas manchot, hardi, courageux, décidé, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien servi en nez, beau débiteur d'heures, beau débrideur de messe, beau décrotteur de vigile, et pour tout dire en un mot, un vrai moine s'il en fut jamais depuis que le monde moinant moina de moinerie. Au reste clair, jusque aux dents, en matière de bréviaire. Celui-ci, entendant le bruit que faisaient les ennemis à travers le clos de leur vigne, sortit pour voir ce qu'ils faisaient. En s'apercevant qu'ils vendangeaient leur clos, sur lequel reposait leur boisson pour toute l'année, il s'en retourne au cœur de l'église où se trouvaient les autres moines tout abasourdis comme fondeurs de cloches, et voyant qu'ils chantaient « Ininin penenene penenene num ninum minimiti kone kone onono mananamanene rum » C'est bien, dit-il. Bien chien chanté, vertu Dieu, que ne chantez-vous au panier, vendanges sans fête ? Je me donne au diable s'ils ne sont pas dans notre clos à couper si bien cèpe et raisin que par le corps Dieu, il n'y aura de 4 années rien à grappiller dedans. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous pendant ce temps-là, nous autres pauvres diables ? Seigneur Dieu, donnez-nous notre vin quotidien ! Alors le prieur claustral dit « Que peut bien faire cet ivrogne ici, qu'on me le mène au cachot, troubler ainsi le service divin ?»« Oui, mais le service du vin, dit le moine, faisons en sorte qu'il ne soit pas troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez à en boire et du meilleur. C'est ce que fait tout homme de bien. Jamais un homme noble ne hait le bon vin, c'est un précepte monacal. Quant à ces réponses que vous chantez ici, par Dieu, ils ne sont point de saison. » Pourquoi nos heures sont-elles courtes en période de moisson et de vendange et longues pendant l'avant et tout l'hiver ? Feu, frère Macépélos, de bonne mémoire, vrai zélateur de notre ordre, où je me donne au diable, m'a dit, je m'en souviens, que c'était afin qu'en cette saison, nous fassions bien rentrer la vendange pour faire le vin et puissions le humer en hiver. Écoutez, messieurs, vous autres qui aimez le vin, par le corps Dieu, suivez-moi, et bon sang, que saint Antoine m'envoie la brûlure si ceux qui n'auront pas secouru la vigne tâtent du pio, ventre Dieu, les biens de l'église. Ah non, 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 diable, saint Thomas l'Anglais a bien voulu mourir pour eux, si je mourais à cette tâche, ne serais-je pas saint pareillement ? Pourtant je n'y mourrai pas, ce sont les autres que je vais expédier. » Ce disant, il mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix, qui était en cœur de cormier, long comme une lance, remplissant bien la main et quelque peu semée de fleurs de lys, presque toutes effacées. Il sortit ainsi en beau sarrau, mit son froc en écharpe, et avec son bâton de croix frappa si brutalement sur les ennemis qui vendangeaient à travers le clos, sans ordre, sans enseigne, sans trompette ni tambour, car le porte-drapeau et les porte-enseignes avaient laissé leurs drapeaux et leurs enseignes le long des murs, les tambours avaient défoncé leurs caisses d'un côté pour les remplir de raisins, les trompettes étaient chargées de pampres, c'était la débandade. Il les cogna donc si roidement, sans crier gare, qu'il les culbutait comme porcs, en frappant à tort et à travers, comme les anciens s'escrimaient. Aux uns, il écrabouillait la cervelle. À d'autres, il brisait bras et jambes. À d'autres, il démettait les vertèbres du cou. À d'autres, il disloquait les reins, effondrait le nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, enfonçait les dents dans la gueule, défonçait les omoplates, meurtrissait les jambes, déboîtait les fémurs, débesillait les faucilles. Si l'un d'eux cherchait à se cacher au plus épais des septes, il lui froissait tout l'arête du dos et lui cassait les reins comme à un chien. Si un autre cherchait son salut en fuyant, il lui faisait voler la tête en morceaux en le frappant à la suture occipito-pariétale. Si un autre grimpait à un arbre, croyant y être en sécurité, avec son bâton, il l'empalait par le fondement. Si quelque ancienne connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !»« Tu y es, disait-il, bien forcé, mais tu rendras du même coup ton âme à tous les diables !» Et sans attendre, il lui assénait une volée. Et si quelqu'un se trouvait suffisamment flambant de témérité pour vouloir lui résister en face, c'est alors qu'il montrait la force de ses muscles, car il lui transperçait la poitrine à travers le médiastin et le cœur. À d'autres qu'il frappait au défaut des côtes, il retournait l'estomac et ils en mouraient sur le champ. À d'autres, il crevait si violemment le nombril qu'il leur en faisait sortir les tripes. À d'autres, il perçait le boyau du cul entre les couilles. Croyez bien que c'était le plus horrible spectacle qu'on ait jamais vu. Les uns criaient « Sainte-Barbe », les autres « Saint-Georges », les autres « Sainte-Nitouche », les autres « Notre-Dame de Cunot, de Lorette, de Bonne-Nouvelle, de l'Allenou, de Rivière ». Les uns se vouaient à Saint-Jacques, les autres au Saint-Suaire de Chambéry, mais il brûla 3 mois après, si bien qu'on n'a pu en sauver un seul. Les autres à Candouin, les autres à Saint-Jean d'Angély, les autres à Sainte-Trope de Sainte, à Saint-Mexmeu de Chinon, à Saint-Martin-de-Cande, à Saint-Clouot de Sinet, aux reliques de Jaffarzay et à 1000 autres bons petits saints. Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. D'autres criaient à voix haute « Confession, confession, je confesse, ayez pitié entre vos mains !» Les cris des blessés étaient si grands que le prieur de l'abbaye sortit avec tous ses moines. Quand ils aperçurent ces pauvres gens culbutés de la sorte à travers la vigne et blessés à mort, ils en confessèrent quelques-uns. Mais pendant que les prêtres prenaient le temps de confesser, les petits moignons coururent à l'endroit où se trouvait frère Jean et lui demandèrent en quoi ils désiraient leur aide. Il leur répondit qu'ils n'avaient qu'à égorgeter ceux qui étaient tombés à terre. Alors, laissant leur grande cape sur le pied de vigne le plus proche, ils commencèrent à égorgeter et achever ceux qu'il avait déjà abattus. « Savez-vous avec quelle arme ?»« Avec de beaux canifs. » De ces petits demi-couteaux avec lesquels les petits enfants de notre pays cernent les noix. Puis, avec son bâton de croix, il gagna la brèche qu'avaient ouverte les ennemis. Quelques-uns des moignons emportèrent les enseignes et les drapeaux dans leurs chambres pour en faire des jarretières. Mais quand ceux qui s'étaient confessés voulurent sortir par la brèche, le moine les assommait à grands coups en disant « Ceux-ci sont confessés et repentants, ils ont gagné l'absolution, ils s'en vont en paradis, droit comme une faucille ou comme le chemin de la fouaille. » Ainsi, grâce à son exploit, tous ceux de l'armée qui étaient entrés dans le clos furent déconfits, et leur nombre se montait à 13 622, sans compter les femmes et les petits-enfants comme de bien entendu. Jamais Maugis, l'ermite avec son bourdon, dont il est question dans la geste des quatre fils Aymon, ne se porta si vaillamment au-devant des Sarrasins que frère Jean à la rencontre des ennemis avec le bâton de la croix. Comment Picrocole prit d'assaut la roche Clermont, le regret et la réticence de Grand Gousier à entreprendre une guerre. Pendant que le moine s'escrimait, comme nous l'avons dit, contre ceux qui avaient pénétré dans le clos, Picrocole passa le gué de Vède en grande presse avec ses gens et prit d'assaut la roche Clermont. En ce lieu, nulle résistance ne lui fut opposée, et comme il faisait déjà nuit, il décida d'établir ses quartiers dans la ville avec ses gens et de calmer sa crise de colère. Au matin, il prit d'assaut les murailles de ceinture et le château, qu'il fortifia solidement et qu'il approvisionna de munitions nécessaires. Il pensait faire là son retranchement s'il était attaqué par un autre côté, car l'endroit était défendu artificiellement aussi bien que naturellement de par sa position et son assise. À présent, laissons-les là et revenons à notre bon Gargantua qui est à Paris, bien assidu à l'étude des belles lettres et aux exercices athlétiques, et au vieux bonhomme Grand Gousier, son père, qui, après le souper, se chauffe les couilles à un beau grand feu clair et qui, en surveillant des châtaignes qui grillent, écrit dans l'âtre avec le bâton brûlé d'un bout dont on tisonne le feu en racontant à sa femme et à sa maisonnée de beaux contes du temps jadis. Un des bergers qui gardait les vignes, nommé Pillot, se rendit auprès de lui à ce moment-là et raconta en détail les excès et pillages auxquels se livrait sur ses terres et ses domaines Picrocole, roi de Lerné, et comment il avait pillé, dévasté, saccagé tout le pays à l'exception du clos de Seuilly que frère Jean des Entomeurs avait sauvé pour son honneur. Le roi en question était à présent à la roche Clermont où il se retranchait fiévreusement avec ses gens. Hélas, dit Grand Gousier. « Que signifie ceci, bonnes gens ? Je rêve ? Ou, si ce qu'on me dit est vrai, Picrocole, mon ancien ami, mon ami de toujours par le sang et les alliances, vient-il de m'attaquer ? Qui le pousse ? Qui l'aiguillonne ? Qui le manœuvre ? Qui l'a conseillé de la sorte ? Oh, 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 mon Dieu, mon sauveur, aide-moi, inspire-moi, conseille-moi ce qu'il faut faire. » Je l'atteste solennellement, et je le jure devant toi. Et puisses-tu m'être favorable ? Jamais je ne lui ai causé nul déplaisir. Je n'ai fait nul dommage à ses sujets, ni pillé ses terres. Bien au contraire, je l'ai secouru en lui prodiguant des gens et de l'argent, en usant de mon influence et en le conseillant chaque fois que j'ai pu savoir ce qui l'avantagerait. Pour m'avoir outragé à ce point, il faut que ce soit sous l'empire de l'esprit malin. Dieu de bonté, tu connais le fond de mon cœur. À toi, rien ne peut être caché. Si par hasard il était devenu fou furieux et que tu me l'aies envoyé ici pour lui remettre en ordre le cerveau, donne-moi le pouvoir et le moyen de le ramener au joug de ta sainte volonté en mettant de l'ordre dans sa conduite. Oh, oh, mes bonnes gens, mes amis et mes loyaux serviteurs, faudra-t-il que je vous contraigne à m'y aider ? Hélas, ma vieillesse ne demandait dorénavant que le repos et toute ma vie je n'ai rien tant cherché que la paix. Alors il fit convoquer son conseil et exposa le problème tel qu'il se posait. Il fut conclu qu'on enverrait quelque homme avisé auprès de Picrocole afin de savoir pour quelle raison il s'était subitement départi de son calme et avait envahi des terres sur lesquelles il n'avait aucun droit. De plus, on enverrait chercher Gargantua et ses gens pour soutenir le pays et parer à cette difficulté. Tout fut ratifié par Grand Gousier qui commanda qu'ainsi fut fait. Aussi envoya-t-il sur l'heure le Basque, son laquais, chercher Gargantua en toute hâte. À celui-ci, il écrivit ce qui suit. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc ces aventures de Gargantua que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.